Bonjour à toutes et à tous, c'est Arthur et je suis votre animateur pour cette deuxième émission. Autour de moi, toute l'équipe de la School Radio. Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Bonjour.
Avant de commencer cette émission, il m'est impératif de vous souhaiter à vous, très chers auditeurs, une très très bonne année 2024. Et toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter plein de bonnes choses.
Je vous souhaite une bonne année pleine de tendresse.
Je vous souhaite de n'avoir aucun souci et aucun problème. Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous.
Je vous souhaite plein de moments de fou rire dans cette nouvelle année.
Je vous souhaite d'avoir de très bonnes notes.
Je vous souhaite plein de chance.
Je vous souhaite d'avoir beaucoup d'amis.
Je vous souhaite une vie saine.
Je vous souhaite d'être vous-même.
J'espère que cette année 2024 vous portera chance et beaucoup d'amour.
Je vous souhaite beaucoup de joie.
Je vous souhaite que cette année vous apportera plein de bonheur.
Je vous souhaite beaucoup d'amusement.
Je vous souhaite d'accomplir vos objectifs.
Merci à vous pour tous ces bons mots. Je souhaite à toute l'équipe de la School Radio une année pleine de réussite et surtout plein de contenus intéressants pour la web radio.
Vous écoutez School Radio. School Radio.
Dans la première partie, Kira, qui est allée à votre rencontre, nous parlera de l'interdiction du téléphone portable au collège. Thélise est quant à elle allée interviewer Monsieur Grosselin pour en savoir davantage sur son métier de chef cuisinier du collège. Nous continuerons le format interview avec Élise qui nous présentera la réalité du métier d'agriculteur. Après une pause musicale très dynamique, on entamera la seconde partie avec Émilien qui nous proposera un retour historique sur le débarquement en Normandie. Gabriel, quant à lui, nous a réservé une chronique assez particulière sur la chaise électrique. On terminera avec un sujet plus léger, mais qui va ravir les gamers, FC24 avec Bastien. Tous les collégiens, ou presque, ont un portable aujourd'hui. Pourtant, au collège, ils sont interdits. Kira, tu es allée à la rencontre des collégiens, notamment pour en savoir davantage sur cette interdiction et ce qu'ils en pensaient.
Bonjour, c'est Kira. Je me suis interrogée sur l'interdiction du portable au collège. Je comprends qu'on ne puisse pas l'utiliser en classe, mais pourquoi n'est-il pas autorisé pendant la récréation ou la pause de midi par exemple ? J'ai interrogé les élèves du collège pour savoir, selon eux, pourquoi était-il interdit au collège ?
Parce que personne ne se parlerait, personne ne se dirait bonjour.
Car sinon on serait tout le temps sur son téléphone et on n'écouterait pas les cours et on pourrait aussi prendre des vidéos de gens sans leur consentement.
Bah c'est qu'il y a, il peut avoir des... Par exemple, quelqu'un peut voler le téléphone de l'autre et aussi pour les élèves, plus se concentrer sur l'école.
Si les élèves ont le téléphone, et bah, ils vont s'en servir de trop et du coup, plus personne ne sera concentré sur les cours.
Ça peut nuire à la scolarité et à la réussite des élèves.
Bah pour pouvoir se concentrer sur les cours.
Bah ouais, parce que sinon en fait...
On serait devant des films en fait.
Ils comprennent bien le risque d'être déconcentrés de leur travail si le téléphone était autorisé. Mais si on leur laissait la possibilité de l'utiliser, quel usage en ferait-ils ?
Bah j'essaierais de l'utiliser le moins possible.
Bah je suivrai mes cours à l'instant et je regarderai mes devoirs pour être toujours prêt.
Bah déjà je n'ai pas de téléphone mais si j'en avais un, bah franchement je le laisserais dans le sac vu qu'au final ça me déconcentrerait sur la vie du collège.
Là on a écouté des élèves qui feraient un usage responsable, utile, mais d'autres prévoient un usage moins sérieux.
Bah moi je m'en servirais pour discuter avec mes amis qui sont pas au collège et puis bah faire des photos, aller sur pour les cours, revoir les réponses.
Aller
sur internet pour tricher.
Bah déjà nous on ferait des TikTok et on ferait ce que.
Malgré ces arguments, le téléphone portable reste interdit au collège. C'est la loi. J'ai décidé d'interroger la CPE sur les raisons de cette interdiction.
Eh bien, l'interdiction du téléphone au collège, c'est simplement parce que c'est la loi. Il y a quelques années, une loi est passée en interdisant que les collégiens aient le téléphone sur eux. Et je trouve que cette loi est très bien faite, finalement, parce que ça vous permet d'être plus concentré. Ça nous permet aussi d'avoir moins d'histoires sur les réseaux sociaux. Et c'est surtout que vous passez déjà beaucoup, beaucoup de temps sur les écrans et qu'à l'école, il faut absolument que vous soyez concentré sur vos apprentissages.
Je comprends bien que le portable est interdit parce qu'on n'en a pas réellement besoin. Pour moi, je suis assez d'accord avec cette interdiction parce que je pense que ça baisse la concentration en classe et surtout, on n'en a pas réellement besoin. De plus, on risque de se le faire casser ou voler. Et comme l'a dit Madame Bouquin, cela aggrave le risque de cyberharcèlement, par exemple. À bientôt.
Merci Kira. Grâce à toi, on sait pourquoi le téléphone est interdit au collège. Restons au collège avec Thélise qui a décidé de s'intéresser à une personne que tous les élèves qui mangent au collège connaissent, Monsieur Grosselin.
Bonjour tout le monde, c'est Thélise. Aujourd'hui, je vais vous parler des coulisses du collège, ou plus précisément du self. J'ai donc réalisé une interview sur Monsieur Grosselin, le chef cuisinier du collège. Vous allez découvrir que son métier est loin de la simple distribution de nourriture. J'ai commencé par en savoir plus pourquoi il avait choisi ce métier.
J'ai choisi ce métier, c'était parce que j'ai vu ma maman faire à manger quand j'étais petit, à votre âge. Donc voilà, j'ai décidé de faire cuisiner à peu près à l'âge de 13-14 ans.
On connaît la restauration avec tous les restaurants qu'on trouve en ville notamment, mais la restauration scolaire est un secteur particulier. Il nous explique la spécialité de la restauration scolaire et les raisons de son choix.
Alors la restauration scolaire, en fait, c'est de faire découvrir à tous les élèves les goûts, les niveaux, les différents goûts. Donc la spécificité, c'est ça, c'est de faire découvrir aux élèves. Après, l'avantage par rapport, c'est de faire devoir plusieurs personnes, quoi, plusieurs publics, quoi.
On comprend donc bien que l'éducation, l'alimentation est importante en restauration scolaire. C'est pour cette raison que la plupart des plats sont faits maison et locaux.
Alors, on essaye de faire au maximum du maison. Bon, il arrive qu'on fasse des produits tout préparés, comme le style des poissons panés. Mais la plupart des viandes sont cuites, c'est fait maison. Et on essaye de plus en plus à prendre des produits locaux qui viennent des Vosges ou un peu de la Meurthe-et-Moselle ou de la Haute-Saône, de la Haute-Marne. Voilà. En fait, on essaye de valoriser les agriculteurs de la région, du département. Donc c'est pour ça qu'on fait maison. On va chercher les produits au plus près du restaurant scolaire. En plus, ça nous favorise et nous, on vous fait découvrir la bonne qualité de la viande, quoi, de notre terroir.
Pour donner du goût à l'alimentation, rien de tel que des plats spéciaux ou à thème. C'est ce que proposent M. Grosselin et son équipe tout au long de l'année.
Il y a des thèmes comme, bon, on peut très bien faire la semaine du goût qui se déroule au mois d'octobre. Au mois d'avril, il va y avoir la semaine des langues. Donc, on va faire des repas anglais, allemand, italien, espagnol. Et puis, bon, après, c'est en fonction du calendrier. Vers la semaine de Pâques, on peut faire des plats se rapportant sur Pâques. Puis, bon, on décide entre nous, entre l'équipe, parce que bon, je suis chef, mais on est trois à travailler. Hein. Donc voilà, donc on en décide entre nous et puis voilà, on fait des plats, des menus à thème. Après, on essaye d'en faire à peu près une fois par trimestre, hein, mais bon, non, ça va dépendre du temps qu'on peut avoir et puis voilà, des opportunités sur certains produits qu'on peut avoir.
En plus des menus à thème qui permettent de découvrir plein de saveurs, il y a la possibilité pour les élèves de s'exprimer sur les plats et menus.
On a remis depuis cette année une commission menu où les élèves participent. Donc là, c'est intéressant de voir leur ressenti. Mais là, on travaille pas que sur le choix des repas, hein, c'est sur le gaspillage, le respect de la nourriture, et voilà, il y a plein de choses à voir avec les élèves. Et nous, on demande à ce que les élèves viennent et puis nous disent.
Monsieur Grosselin nous a parlé du gaspillage alimentaire. J'ai donc cherché à savoir si beaucoup d'élèves avaient de mauvais comportements.
Oui, il y en a quelques-uns. Après, il faudrait faire un petit sondage, mais il y a une petite population d'élèves qui ne sont pas respectueux de la nourriture. Bon, après, on essaye justement de les cibler afin de faire changer leur comportement. La nourriture, c'est pas un jeu, c'est tout le monde en a besoin pour vivre. Il y a d'autres endroits où ils n'ont pas la nourriture à volonté comme eux ils l'ont. Donc voilà, on essaye de leur faire ressentir ce fait-là, quoi.
On l'aura donc bien compris, la restauration scolaire n'est pas seulement faite pour faire manger les élèves. C'est leur faire découvrir l'intérêt de la nourriture, de la cuisine maison et des achats locaux. Bien manger, c'est agréable et ça s'apprend. Merci à Monsieur Grosselin, chef cuisinier, qui nous a permis de comprendre à quoi consistait son métier. J'ai découvert énormément de choses et j'ai trouvé que son métier est vraiment passionnant. Je ne savais pas que manger au self, c'était aussi découvrir la nourriture et apprendre des choses sur l'alimentation. Maintenant, quand je passerai au self, je ferai attention à ce qu'on nous propose à manger. Et j'espère que vous aussi. À bientôt. J'espère que ça vous a plu. Salut!
Et bien voilà un métier passionnant à découvrir. Restons dans la découverte des métiers avec Élise, passionnée d'agriculture, qui nous présente ce métier richement documenté par des interviews.
Bonjour, moi c'est Élise. Ma passion c'est l'agriculture et j'ai décidé de vous présenter la réalité de ce métier d'agriculteur, parfois loin des préjugés que l'on peut avoir. Je vais commencer par dire qu'il existe plein de spécialités dans l'agriculture. Céréaliers, maraîchers, viticulteurs, horticulteurs, éleveurs, cultivateurs, etc. Pour m'accompagner dans cette présentation, je vais plutôt vous parler du métier d'exploitant agricole que font mes parents et mon oncle. Élevage, culture, traite, etc. Leur métier consiste à travailler la terre et développer des techniques d'élevage, mais il ne faut pas oublier tout l'aspect technique et administratif. Réparation des équipements agricoles et gestion comptable notamment. Commençons par les avantages de ce métier.
Le métier d'agriculteur, c'est avant tout, faut aimer la nature, aimer les animaux. C'est travailler avec le vivant.
Alors les avantages d'agriculteur, c'est de travailler avec la nature, en prendre soin. Travailler avec les animaux, les élever jusqu'au bout, en prendre soin aussi.
Il faut déjà être polyvalent, c'est-à-dire vétérinaire, inséminateur, restaurateur au niveau des machines agricoles. On peut gérer sa famille en fonction de son travail. On peut organiser son travail comme on veut.
On est son patron, il faut respecter les astreintes, mais on peut se libérer du temps et profiter de la nature. C'est-à-dire que quand on veut, on peut aller aux champignons.
Quand on travaille, on peut expliquer des choses à ses enfants pour la suite, lui donner des explications.
Il faut donc aimer la nature et les animaux, ce qui me correspond totalement. Un autre avantage, c'est qu'on peut gérer son temps, mais on comprend vite que ce métier demande de passer beaucoup de temps toute la journée et parfois la nuit, à de nombreuses tâches différentes.
Alors, les contraintes du métier d'agriculteur, c'est de travailler en fonction des jours de soleil ou de pluie, s'arranger avec son travail à effectuer, et aussi l'alimentation des animaux, prendre soin des animaux, c'est-à-dire les matins et les soirs. On est obligé d'être là pour les soigner et le suivi de la traite.
Eh bien, il faut surtout gérer les choses, vivre avec la météo, respecter les animaux et surtout gérer son argent.
On a entendu que la météo était également un élément essentiel, c'est très important car avec le réchauffement climatique, les sécheresses et inondations de plus en plus fréquentes et il devient difficile de maintenir des cultures satisfaisantes. On constate des engins et équipements agricoles de plus en plus performants. J'ai cherché à savoir si la mécanisation était un réel atout pour les agriculteurs d'aujourd'hui.
Avec la mécanisation, ça devient plus facile, c'est déjà moins fatigant. Ça facilite le travail, ça fait gagner du temps au niveau des semences pour semer et tout. C'est négatif aussi. Il crée des machines de plus en plus sophistiquées, mais le jour où ça tombe en panne, c'est que de l'électronique, le jour où ça tombe en panne, là, on est coincé.
Alors, le progrès et la mécanisation, vous mettez l'agriculteur, oui, c'est vrai, c'est beaucoup mieux qu'avant. Mais le souci que maintenant, c'est que les machines sont trop perfectionnées et la moindre panne, ça nous condamne, ça nous condamne et on est bloqué, on est obligé de faire appel à des techniciens pour nous réparer. On n'est plus capable de les réparer nous-mêmes.
On comprend bien que la mécanisation facilite les tâches des agriculteurs, aussi bien dans les travaux des champs que lors de la traite par exemple. mais la technologie est tellement avancée qu'il devient difficile de réparer soi-même. Je remercie sincèrement Didier, Virginie et Stéphane d'avoir répondu à mes questions qui m'ont permis de rédiger cette chronique. J'espère que vous aurez mieux compris ce qu'est la réalité du métier d'agriculteur. Moi, qui aide déjà mes parents à la ferme, j'ai découvert plein de choses à travers ces interviews. Ça m'a permis de bien réfléchir à ce métier que je veux exercer plus tard. N'oubliez pas que c'est un métier essentiel pour nous nourrir, alors préférez leur production à des articles qui viennent de l'autre bout du monde. C'est meilleur pour vous et c'est bon pour la planète.
Merci Élise. Le métier d'agriculteur est en effet un véritable métier passionnant. Chères auditrices et auditeurs, ne trouvez-vous pas qu'il manque un peu de musique dans cette émission ? Pour mettre un peu de dynamisme, je vous présente la chanson électro Energie de Pocky DJ. C'est un artiste de musique électronique italien. Il a sorti de nombreux titres sur des plateformes telles que Spotify ou iTunes. Il a également une page Facebook et une chaîne YouTube. Écoutons tout de suite ce titre ultra dynamique. Je dois avouer à nos auditeurs que notre studio de radio s'est transformé en discothèque à l'écoute de cette musique électro. Bon, les amis, on se rassoit et on se calme puisqu'on arrive à la seconde partie de notre émission avec deux chroniques historiques une chronique jeux vidéo. Commençons par un retour sur un moment déterminant de notre histoire. Émilien, dévoile-nous tout sur le débarquement en Normandie.
Bonjour, c'est Émilien. Dans cette première chronique historique, je vais vous parler du débarquement de Normandie qui a eu lieu le 6 juin 1944. Petit rappel historique. Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne, qui a envahi la Pologne. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance un appel à la poursuite de la lutte armée. C'est le début de la résistance. Le 22 juin 1940, la France et le Troisième Reich signent l'armistice. La France est partiellement occupée. Dès avril 1942, les Anglais et les Américains envisagent un débarquement pour l'été 1943. Mais c'est lors de la conférence Trident qui s'est tenue du 12 mai au 27 mai 1943 à Washington que les Américains et les Britanniques signent un réel accord préparant notamment le débarquement sur les plages de l'ouest de la France. L'opération Overlord est créée en décembre 1943. Elle consiste en une grande offensive alliée pour libérer l'Europe. Elle est lancée le 6 juin 1944 avec l'opération Neptune, phase d'assaut d'Overlord. L'objectif est le débarquement des troupes et de matériel sur le littoral de Normandie. Il est vrai que le lieu qui paraissait le plus logique pour ce débarquement aurait été le Pas-de-Calais, partie de la France la plus proche de l'Angleterre. Mais les Allemands ont évidemment fortifié cet endroit et s'attendant à ce débarquement. Pour surprendre l'ennemi, le débarquement est alors envisagé sur les plages de Normandie, prévu le 5 juin. Le débarquement est reporté au lendemain, en raison des conditions météorologiques très défavorables. Ce débarquement s'est déroulé sur 5 plages françaises auxquelles furent donnés les noms de code Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach, Sword Beach. Ce débarquement fut très meurtrier. Sur 156 000 soldats alliés, 10 660 furent tués, blessés ou disparus. Le débarquement de Normandie est considéré comme l'événement marquant le début de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce débarquement avec celui de la Provence le 15 août 1944 permet aux alliés de libérer l'Europe occidentale. Cela entraînera la défaite de l'Allemagne nazie.
Merci Emilien pour ce rappel historique très clair. J'ai appris plein de choses sur ce fameux débarquement qui nous a permis de mettre fin au terrible régime nazi. Restons dans l'histoire. Nous allons plonger à la fin du 19e siècle aux États-Unis avec une invention terrifiante. Gabriel, tu vas nous parler de la chaise électrique.
Bonjour à tous les amis, c'est Gabriel. Et aujourd'hui, je vais vous parler des origines d'un instrument d'application de la peine de mort, la chaise électrique. Cette chronique a uniquement pour but de vous informer sur cette invention mortifère. En aucun cas, je ne défends son utilisation. Bien au contraire, je rappelle que la peine de mort est abolie en France depuis le 9 octobre 1980 et que cet instrument n'a jamais été utilisé dans notre pays. L'origine de la chaise électrique remonte aux années 1880. C'est Thomas Edison, un des pionniers de l'électricité, qui a demandé à l'ingénieur électricien Harold P. Brown et au dentiste Alfred P. Southwick de créer cet instrument. Il avait deux objectifs. Le premier était de trouver un moyen d'exécution moins cruel et plus efficace que la pendaison. Le second était d'imposer le courant continu face au courant alternatif développé par George Westinghouse et Nikola Tesla. C'est ce qu'on appelait la guerre des courants. Le film La ligne verte, adaptation d'un roman de Stephen King, est connu notamment pour cette terrible scène d'exécution du héros sur la chaise électrique. Même si le film est interdit aux moins de 12 ans, cette scène est très violente et je vous déconseille vraiment de la regarder. Si je parle de ce film, c'est parce qu'il permet de dénoncer la peine de mort, tant pour ce qui concerne sa violence que pour l'impossible retour en arrière en cas d'erreur judiciaire. Bref, c'est une terrible invention dont je vous ai parlé. Je vous rassure, je vais vous proposer des chroniques plus joyeuses dans les prochains hebdos. À bientôt !
Comme tu l'as dit, Gabriel, ta chronique est effrayante et j'espère que tu traiteras de sujets plus joyeux la prochaine fois. Passons à un sujet beaucoup plus léger pour terminer cette émission avec Bastien. Tu vas nous présenter un jeu créé par Electronic Arts, FC24.
Yo tout le monde, c'est Bastien. Je vais vous présenter un jeu sorti le 29 septembre dernier et aussi je vais vous livrer mon analyse de ce jeu que j'ai déjà pratiqué pendant de nombreuses heures. FC24, c'est le nouveau jeu de foot d'EA Sports. Il est le successeur de FIFA 23. Ce jeu comporte plus de 19 000 sportifs répartis dans 700 équipes, dans 100 stades et plus de 30 championnats à travers le monde. FC24 comporte différents modes de jeu. Le mode carrière de joueur qui permet d'incarner ou de créer son joueur pour arriver au sommet du football. Le mode carrière manager qui permet de créer ou d'utiliser un vrai club pour le diriger. On peut même faire des matchs classiques ou des matchs 3v3, 4v4, 5v5 ou même de futsal. Le mode fut permet de créer son équipe de rêve en achetant des joueurs ou en les trouvant dans des packs que l'on peut avoir avec des crédits FC, la monnaie du jeu, que l'on gagne en jouant des matchs. Maintenant, je vais vous donner mon avis selon 4 critères qui me paraissent essentiels pour un tel jeu. Les nouveautés, les graphismes, le gameplay et la jouabilité. Pour chacune de ces catégories, je vais vous donner une note sur 5, ce qui fera un joli total de 20. Commençons par les nouveautés. Il y en a pas mal, avec notamment l'apparition des femmes dans FUT, ainsi que la vue spectateur pour vivre les matchs comme si on y était. On constate aussi l'ajout de la cérémonie du Ballon d'Or. Malheureusement, on attendait plus de nouveautés. C'est pour cela que je ne vais mettre qu'une note moyenne de 3 sur 5. Passons au graphisme. Je les trouve satisfaisants. Le réalisme des joueurs est très bien, je mets donc la gracieuse note de 4 sur 5. Car certains joueurs ne sont malgré tout pas très bien modélisés. Continuons avec le gameplay. Il est bon, les modes de jeu sont diversifiés et intéressants. Les matchs sont réalistes, je ne vois pas d'éléments négatifs. Donc je mets la note parfaite de 5 sur 5. Terminons par la jouabilité, j'ai eu un coup de cœur pour le principe de l'accessibilité du jeu avec un mode daltonien et d'autres paramètres selon les handicaps que l'on peut rencontrer. Je mets donc là encore un 5 sur 5. Ce jeu atteint donc la très honorable note de 17 sur 20. C'est donc un jeu que je vous conseille, il est accessible sur toute plateforme. A très bientôt, ciao les gamers!
Merci Bastien, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse sur ce jeu. Il est un peu différent de FIFA et pour moi c'est le meilleur jeu vidéo de foot. Eh bien, nous voilà déjà à la fin de ce deuxième hebdo. Merci l'équipe de nous avoir concocté ces chroniques. J'ai beaucoup apprécié présenter cet hebdo. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, ça nous fait toujours énormément plaisir. Merci à Kira, Thélise, Élise, Emilien, Gabriel et Bastien. C'était votre animateur Arthur. À une prochaine. Adios, amigos.
School Radio, les ados. La chemise.